Bien bonjour, donc je suis Alain Berthelot, je travaille à l'Institut technologique FCBA et j'ai co-réalisé cette présentation avec Bernard Mourlan, qui ne pouvait pas être là aujourd'hui, qui est président de la Chambre du Peuplier, qui est une organisation d'exploitants forestiers et d'industriels utilisateurs du bois de peuplier, et qui est aussi. Il est à Propopulus, alors je ne sais pas ce qu'il est exactement, vice-président, je crois, de Propopulus, qui est une organisation européenne, puisqu'il y a un certain nombre de pays européens pour lesquels le peuplier représente une ressource importante. Donc je vais vous parler des usages du bois de peuplier. Hein, pourquoi on cherche absolument à cultiver du peuplier dans notre pays? Bah, c'est qu'il y a, il y a, ça peut présenter un certain nombre d'intérêts. Donc je vous présenterai quelques chiffres dans les premières diapos. Pour fixer un petit peu les utilisations actuelles du bois. Ensuite, il y aura une partie un peu plus reportage photo sur le déroulage, le sciage, etc. Qu'est-ce qu'on en fait? Et puis l'utilisation des surbilles. Et puis je terminerai sur quelques diapos sur des résultats de propriété du bois en fonction de la variété du peuplier cultivé. On va voir que ce n'est pas du peuplier, c'est un peu plus compliqué que ça. Et puis deux dernières diapos de conclusion sur le lien qu'il y a à faire entre les plantations et puis et bien les produits qu'on en fait. Donc première slide sur les chiffres. Le peuplier, c'est des surfaces très très faibles. Vous avez ici une première série d'histogrammes qui correspondent aux surfaces. En France, pour le chêne, le hêtre et le peuplier, ici vous avez les surfaces, donc les peupliers c'est 200 000 hectares à peu près, et ici vous avez les volumes récoltés annuellement. Donc grosso modo, 1,4, le dernier chiffre c'était 1,4 million de mètres cubes pour le peuplier. Donc le peuplier, on voit qu'avec quand même très peu d'hectares, on alimente une industrie qui utilise 1,4 million de mètres cubes bois d'œuvre, hein, donc il faut rajouter les surbilles. C'est la deuxième essence feuillue récoltée après le chêne. Avec le chêne, avec ses 4 millions d'hectares. Alors, qu'est-ce qu'on en fait de ce 1,4 million de mètres cubes? Eh bien, vous voyez que pour une grande part, on en fait du déroulage. Donc, vous avez ici. Non, la baguette, elle est repartie. Vous avez ici le déroulage contreplaqué, le déroulage emballage léger. Merci Richard. Donc le contreplaqué, déroulage, hein, le déroulage emballage léger, on y reviendra tout à l'heure pour que vous visualisiez ce que c'est. Et puis donc en vert foncé, le sciage. Donc une grande part, presque la moitié du sciage peuplier part à la palette et le reste, eh bien, c'est ameublement, bardage, etc. Voilà ce qu'on les grandes masses de l'utilisation actuelle. Alors, autre caractéristique du peuplier, c'est qu'on a une récolte fluctuante. Vous avez ici la récolte bois d'œuvre toujours depuis la fin de la Deuxième Guerre mondiale pour le chêne. Le hêtre en bleu et en gras rouge, c'est le peuplier. Vous voyez qu'avec une sorte de cycle de 25 ans à peu près, eh bien, ça fluctue et ça fluctue vraiment d'une grande amplitude. Le summum ayant été atteint en 90 avec plus de 3 millions de mètres cubes récoltés, ce qui n'avait jamais été atteint avant. Hein. Donc ensuite, on est passé par un creux, puis là, depuis quelques années, on repart avec une légère hausse des récoltes. Alors, là encore, par rapport à ce pic vous reconnaissez le pic de 1990, hein, ce qu'on peut voir, c'est que la proportion de déroulage, donc le déroulage est en bleu et le sciage en rouge, c'est que la part relative du sciage diminue. Hein, elle était de plus de moitié à cette époque-là, et puis elle diminue progressivement pour arriver aujourd'hui à peu près un tiers du bois d'œuvre et 2 tiers passent en déroulage. Et puis la carte de France, c'est pour vous indiquer que les industries utilisatrices sont en grande majorité des petites ou moyennes entreprises.
assez bien répartis sur le territoire. Là, bon, c'est la figuration d'adhérents à deux organisations professionnelles. Il y en a d'autres, hein. Il y a plein de points qui ne figurent pas sur la carte. J'ai pris ce que j'avais. Mais ça vous montre quand même que le territoire est assez bien pourvu en industrie utilisatrice. Alors, qu'est-ce qu'on en fait de ce peuplier ? Ben, les premières quantités en volume sont utilisées dans l'industrie du contreplaqué. Le contreplaqué, c'est quoi ? Ben, on va dérouler, alors c'est le principe du taille-crayon, hein, on va dérouler un billon d'assez grande longueur et on va obtenir une feuille de papier, une feuille de papier, non, une feuille de plaquage qu'ensuite, en bout de chaîne, on va massicoter en grande feuille. Et puis ces feuilles, alors elles, en plus elles sont souvent classées par qualité, hein, s'il y a des nœuds, s'il y a de l'humidité, etc. Donc automatiquement en bout de ligne, elles sont classées et ensuite elles sont passées dans un séchoir donc pour ramener le niveau d'eau à X%, je crois, enfin pas beaucoup. Et ensuite on va, alors j'ai pas pu mettre toutes les diapos, hein, ensuite on va constituer le gâteau qui fait le contreplaqué en croisant les feuilles, en croisant les fibres et en encollant les panneaux, et ensuite on les presse pour obtenir du contreplaqué. Voilà. Le contreplaqué, donc c'est ça. Les feuilles sont croisées. Il y a un autre type de, alors qui n'existe pas mais qui est en France, mais qui existe dans d'autres pays, c'est le LVL, où là les feuilles, au lieu d'être croisées, sont toutes mises dans le même sens. En général, les plaquages sont un peu plus épais et sont toutes mises dans le même sens. Et donc, ça donne un produit intéressant, mais qui a des caractéristiques différentes du contreplaqué. Alors, l'avantage du bois de peuplier, c'est qu'il a un rapport masse-propriété mécanique qui est très bon. Alors, il est léger, mais par rapport à son faible poids, il a des propriétés mécaniques qui sont plutôt bonnes. Sa couleur claire est aussi un avantage. Ça fait un produit qui est agréable à regarder, et c'est une alternative au contreplaqué de bois exotique. C'est une des seules espèces, hein. Bon, il y a le hêtre qui se déroule, mais sinon il y a quand même pas énormément d'essences susceptibles de remplacer les bois exotiques. Et puis on est dans une dynamique actuellement en France de création d'usines, qui est suffisamment rare pour être souligné, de contreplaqués. Il y a plusieurs usines qui se sont montées ou qui vont se monter en France dans les prochains mois, et c'est quand même une dynamique positive. Alors, deuxième en utilisation du bois, toujours en déroulage, c'est le grand secteur de l'emballage léger. Donc là, alors c'est le même principe du taille-crayon, mais vous voyez que les billons sont beaucoup plus petits, et le massicotage, au lieu d'avoir lieu en bout de chaîne, se fait dès la sortie de la dérouleuse. Et on va massicoter pour obtenir des pièces de dimensions extrêmement variables. Puis ensuite, on va les assembler pour faire les côtés des cagettes, et puis les fonds des cagettes, et puis etc. Et puis au fil de la chaîne, on assemble tout ça. Et puis ça finit en cagettes fruits et légumes. Mais c'est aussi des bourriches d'huîtres, des choses comme ça, des coffrets cadeaux, des barquettes pour les fraises, mais c'est aussi les boîtes à fromage. On a une usine dans le Jura qui est particulièrement impressionnante à visiter, parce que ça fait des très beaux produits finis, et ça donne de la... C'est assez bonne valeur ajoutée pour mettre en valeur des produits du terroir. Voilà, alors si on passe au sciage maintenant, je vous ai dit, hein, la plus grosse part du sciage peuplier passe en palette. C'est une essence qui est... Alors, c'est évidemment, ça reste faible par rapport aux palettes réalisées en résineux, mais c'est quand même une essence qui est utilisée pour des volumes quand même non négligeables. Et puis également la caisserie industrielle, la caisserie à façon, hein, pour envelopper les marchandises, utilise pas mal de peupliers également. Et puis l'ameublement, la literie, l'agencement intérieur, il y a plusieurs utilisations de sciage de peupliers. Toujours le même avantage, hein, ce bois blanc... qui prend bien la teinte, qui est facile à travailler, c'est plutôt des qualités. Alors là, maintenant des utilisations un peu plus nouvelles, il y a une technique qui s'appelle le bois modifié thermiquement, c'est-à-dire qu'on chauffe le bois en fait, et qui permettent d'avoir une bonne utilisation en extérieur, une bonne durabilité en extérieur. Ça, entre guillemets, caramélise un peu le bois. C'est pour ça qu'il est un peu marron, notre peuplier, là. Mais le gros intérêt, c'est que ça lui donne une bonne durabilité extérieure sans produit de traitement. Le simple fait de l'avoir chauffé lui confère une bonne résistance aux intempéries. Donc, c'est utilisé en bardage, en platelage. Et puis, récemment aussi, notamment dans le nord de la France, il y a eu pas mal de réalisations d'utilisation du peuplier en charpente, en structure, donc, avec des belles réalisations, entièrement 100% peuplier. Hein, tout ça, c'est 100% peuplier. Ça reste, par rapport au volume dont je parlais avant, hein, ça reste anecdotique hein, pour l'instant. Mais il y a quand même un espoir de développement sur l'utilisation en structure, parce qu'il y a une étude qui est en train de se terminer, qui a été initiée par le CNP, le Conseil National du Peuplier, donc, sur l'utilisation du peuplier en structure. Pour pouvoir l'utiliser en structure, il faut qu'il soit classé mécaniquement. Le classement mécanique est plus pertinent que le classement visuel. Et pour ça, on est en train d'homologuer des machines qui seront capables, comme on le fait actuellement pour le résineux, hein, ça n'a rien de révolutionnaire, c'est fait pour le résineux. Il suffit de régler les machines pour le peuplier, et on aura, ça permettra aux industriels de pouvoir dire, j'ai classé mon bois, il est C18, C24, je ne sais pas si ça parle à certains d'entre vous, et donc je peux faire le marquage CE et je peux l'utiliser dans les produits de structure. Et parallèlement à ces tests qui vont ouvrir la possibilité de faire du classement mécanique, on a aussi une tâche qui consistait à tester des maquettes de produits en bois reconstitué. On appelle ça des produits techniques parce que c'est du bois, c'est pas du bois massif, c'est du bois qui est retravaillé, qui est disposé de façon intelligente. Alors soit du bois massif à bouter. Alors vous savez, on fait les entures et puis on colle des pièces successivement pour avoir des grandes portées. Si on colle tout ça, ben on obtient une poutre lamellée collée. Ici, vous avez quelques poutres. Alors elles sont posées sur champ. Hein. Elles sont posées comme ça. Les lames sont collées. Et vous voyez ici que, alors c'est des produits techniques dans le sens où, par exemple, on peut mettre dans les pièces centrales, c'est pour ça que les couleurs diffèrent un peu, vous pouvez mettre des propriétés mécaniques un peu moins bonnes au centre et meilleures en extérieur, parce que dans une poutre, c'est la partie centrale qui travaille le moins. Donc voilà, il y a moyen de réaliser des produits assez pointus. Et puis, dernière chose ici, c'est ce qu'on appelle du panneau CLT. Alors, le panneau CLT, c'est collé, là encore, c'est collé comme du lamellé collé, mais simplement, le fil du bois est croisé, comme tout à l'heure dans le contreplaqué. Je ne sais pas si on le voit sur la photo, là, mais en fait, les pièces de bois, alors usinées, rabotées, etc., hein, sont disposées à fil croisé, en panneau d'une certaine épaisseur, et ça, c'est utilisé pour faire des murs porteurs ou des planchers. Voilà. C'est, encore une fois, hein, c'est imaginer du résineux. Hein. Ça n'a rien de révolutionnaire. Ce qui est révolutionnaire, c'est de le faire en peuplier. Voilà. Alors ça, c'était pour d'éventuels futurs marchés pour le sillage. Mais il n'y a pas que ça, il n'y a pas que le bois d'œuvre. Hein. Au-dessus de la grume, il y a la surbille. Et la surbille, elle est traditionnellement utilisée en trituration. Alors soit pour faire de la pâte à papier, soit pour faire des panneaux. Alors ce qu'on appelle des panneaux de process, c'est-à-dire que là, on déstructure le bois. Alors soit pour faire du panneau de fibre. Ici, vous avez de l'OSB. Avec des particules plus grandes. Ça, c'est un OSB 100% peuplier. Il n'y a pas d'usine en France, mais ça, c'est des choses qui existent quand même et qui se font. Alors, toujours pareil, hein, les qualités du peuplier, bah, c'est sa blancheur, ses propriétés mécaniques qui sont souvent mises en avant. Par exemple, en matière de peuplier, bah, si on le mélange avec d'autres essences feuillues, eh bien on a du papier plus clair, et comme il est plus clair, il nécessite moins d'agents de blanchiment pour obtenir un papier blanc à la fin. Et puis, autre utilisation des survies, bah, c'est le bois énergie. On en a parlé un petit peu ce matin. Les houppiers peuvent être utilisés en énergie. Alors, c'est pas très actuellement. Il y a beaucoup de critiques. On entend beaucoup de critiques sur le peuplier pour les chaufferies. J'ai discuté récemment avec quelqu'un de chez Dalkia qui me disait qu'en fait, effectivement, les plaquettes de peuplier sont différentes du mix qui arrive habituellement. Mais si on sait que c'est du peuplier, si on sait le travailler, il n'y a pas de problème pour utiliser le peuplier en chaufferie. Et si on avait des hivers un peu rigoureux, vous verriez que tout de suite, ça s'arrange les choses. Quand on a besoin de bois, on prend plus facilement les volumes. Quand on peut se permettre de faire le difficile, on le fait. À titre d'exemple, et ce matin je voulais intervenir, mais le temps des questions était passé, il m'a cité une chaufferie à Angers qui tourne à 40% de peuplier quand même, et qui tourne très bien, sans problème. Donc il ne faut pas forcément écouter toutes les critiques qu'on entend. Voilà, alors maintenant j'attaque quelques données sur les propriétés du bois de peuplier. On va voir qu'elles peuvent être, quand même très différentes d'une variété à l'autre. Vraiment quelques mots sur... sur ce qui va m'intéresser moi en tant qu'améliorateur. Je vous ai dit ce matin que je participe au GIS peuplier, donc dans la création de nouvelles variétés de peupliers. Si on veut regarder les propriétés du bois, il faut d'abord s'assurer quelles sont celles qu'on peut mesurer sur des arbres jeunes et être sûr qu'on les retrouve sur des arbres adultes, parce que s'il y a des propriétés qui ne sont mesurables qu'à l'âge adulte, eh bien, il faut qu'on attende. On avait fait un travail il y a très longtemps, Marc, tu étais encore dans le coup, c'était intéressant parce qu'on avait vu qu'un certain nombre de caractéristiques pouvaient être mesurées sur des arbres très jeunes, dès 2 ans, et que par contre, il y avait d'autres choses, notamment plus qualitatives, qu'on ne pouvait atteindre qu'à l'âge adulte. Et puis, l'élément le plus important et plus récent, c'est 2 fascicules qui ont été faits toujours à l'initiative du Conseil national du peuplier, qui sont disponibles sur Internet, et qui donne vraiment un descriptif complet des propriétés du bois pour en tout 23 variétés. Alors, avec une entrée, soit vous avez une entrée par variété, et là vous avez une carte d'identité avec tout ce qu'on a mesuré sur les propriétés du bois de la variété Flévo. Ah, vous avez tout ce que vous voulez. Et puis, ou alors une entrée à la fin du fascicule en comparant les variétés. Sur chaque propriété décrite, eh bien, on a sur l'infradensité, eh bien, on a la comparaison des 23 variétés, donc ce qui permet de placer les variétés les unes par rapport aux autres. Donc c'est un travail qui a été assez long, mais qui, je crois, est toujours d'actualité, et même le sera encore pendant un bon moment, parce qu'on avait, une foule de résultats toujours valables. Donc c'est disponible, encore une fois, c'est disponible sur Internet, vous avez le lien sur la présentation. Alors, ces propriétés du bois, elles résultent quand même de... Tout n'est pas génétique. Elles résultent de l'interaction entre la variété qu'on va choisir, le sol dans lequel on va l'installer, et puis en plus, les techniques culturelles qui vont être mises en œuvre par le propriétaire. C'est-à-dire que, bon, le cultivar, bah, certes, on choisit, donc lui, il a ses caractéristiques propres, mais en fonction du terrain où on va le mettre, il va avoir une certaine vitesse de croissance. Et puis en plus, selon que le propriétaire aura fait des opérations ou pas, là encore, ça va jouer sur sa vitesse de croissance et puis également sur le fait de disposer de boissons nœuds dans la bille de pied, etc. Et évidemment, il y a toutes les interactions entre tout ça. Alors, je vous donne juste 2 exemples. L'un montrant que le facteur génétique est prépondérant, et puis un autre où on verra que c'est plutôt le facteur parcelle qui est prépondérant. L'infradensité du bois, c'est grosso modo la densité du bois anhydre. On enlève toute l'eau et on pèse, voilà. Et bien, vous êtes tombé en panne de pile. Ah. D'accord. En panne de pile. Bon, ouais, je vais continuer ça.
C'est pas toi, c'est le micro.
Donc, juste pour vous montrer, donc l'infradensité, donc c'est en kilos par mètre cube, juste pour vous montrer que ça peut varier entre variétés extrêmes de presque 100 kilos par mètre cube, c'est énorme. Le plus léger fait 300 kilos par mètre cube et le plus lourd fait 380 kilos par mètre cube. au sein d'une essence, c'est quand même des écarts qui sont c'est des écarts qui sont remarquables. La variété dont on parlait ce matin, I214, avec des propriétés un petit peu spéciales, toujours extrêmement léger. Alors ici, on voit bien que pour cette propriété-là, l'effet cultivar est toujours, c'est l'effet prépondérant. Il est, quel que soit l'endroit où on va cultiver I214, il est très léger, il est le plus léger. Cette propriété, elle est intéressante. L'infradensité, d'abord parce qu'elle est facile à mesurer, on peut la mesurer sur les arbres jeunes, et en plus, elle est très liée aux propriétés mécaniques du bois. Là, c'était la première étude qu'on avait faite, on avait fait 10 clones, et vous voyez que ici, vous avez l'infradensité, donc je vous ai dit, hein, 200-300 kg à peu près pour les plus légers, et jusqu'au plus lourd, 380 kg. Et ici, vous avez le module d'élasticité, bon, c'est un... Je serais incapable d'ailleurs de vous dire... précisément de quoi il retourne, mais en gros c'est la rigidité de la planche, quoi. C'est-à-dire que plus c'est fort et plus c'est solide. Donc ici vous avez les bois peu rigides et là-haut vous avez les bois très rigides. Et on voit que clairement entre le I214 ici et le Robusta ici, les deux clones extrêmes, eh bien plus votre bois est lourd et plus il va être rigide, plus il va être solide. Et puis on a fait une deuxième étude quelques années après avec d'autres variétés, et en fait elles viennent se distribuer. Alors déjà, premier résultat, I214 vient se placer à côté de I214, donc les témoins c'est utile, et on voit les nouveaux cultivars se placer sur la même droite, hein, finalement. Donc on a un groupe, on va avoir un groupe de clones plutôt lourds et solides, un groupe moyen, et puis un groupe de légers. Voilà. Et ces propriétés-là, on les retrouve quand on fait quand on va jusqu'à casser les planches, eh bien on retrouve le classement et on retrouve les clones I214. Il a plutôt des propriétés mécaniques pas terribles, et puis une majorité de clones qui a quand même des caractéristiques mécaniques tout à fait satisfaisantes. Je passe sur le détail de l'infradensité. Puis là, je vous montre le deuxième exemple où là le facteur génétique existe, mais n'est pas forcément prépondérant. Alors là, c'est un critère qualitatif, c'est le cœur coloré. Alors il y a deux choses, il y a le pourcentage de cœur coloré par rapport entre ces deux clones-là, on voit bien qu'il y a un gros écart, et puis l'intensité de la couleur. Là, on voit que c'est très foncé, alors que là, il est à peine marqué, quoi. Ici, il est à peine marqué également, quoi. Alors ça, évidemment, quand on est dérouleur, c'est très important, ça va donner des caractéristiques au plaquage visuel, mais aussi d'humidité et donc de qualité du plaquage qui vont être différents. Et ça, on a vu qu'il y avait un effet, bon, il y a un effet cultivar, il n'y a pas de doute, mais c'est surtout aussi les conditions de croissance et la parcelle qui fait qu'on va avoir des bois plutôt colorés ou des bois plutôt clairs. Et c'est la même chose sur d'autres critères comme le bois de tension, des choses comme ça. Et ça, ça veut dire que c'est difficile à prédire. C'est difficile à prédire au début, quoi. Et notamment dans le jeune âge, on est obligé de le constater a posteriori.
Et c'est quoi dans la parcelle qui fait la différence? C'est la qualité de.
Alors, je pense qu'il y a beaucoup d'humidité, l'excès d'humidité. Souvent dans les parcelles les plus humides, on a quand même des bois souvent très noirs, très colorés.
Et c'est quoi ton plaquage vert?
Oui, alors ça, oui, c'était juste pour illustrer que ce qu'on mesure en laboratoire, sur le pourcentage de faux cœur, par exemple, ça nous donne des chiffres, hein, il y a 40% de cœur coloré, bon. Mais en fait, en industrie, je vais rentrer dans le détail. Le cœur coloré, il est plein d'eau, il est très mouillé. L'aubier, c'est d'ailleurs le contraire de beaucoup d'arbres, l'aubier est beaucoup plus sec. Et en fait, ce qu'ils appellent ici le pourcentage de plaquage vert, c'est le plaquage humide, en fait. Eux, ils appellent ça vert, mais en fait, c'est pourcentage de plaquage humide. Et les plaquages très humides, en général, sont colorés, présentent des déformations importantes, donc c'est pas recherché. Et en fait, là, ce que je voulais juste montrer, c'est que quand on mesure nos trucs sur nos rondelles, nous, eh ben, en industrie, ça se retrouve, quoi. Eux, la mauvaise qualité, pour eux, elle est là. Donc effectivement, c'est quand il y a beaucoup de cœurs colorés, ça se voit, ça se retrouve en usine. Okay. C'était juste pour illustrer ça. Voilà, et puis je termine donc avec deux diapos de conclusion. il faut vraiment, si on est content de pouvoir disposer de produits en bois qui soient innovants ou qui soient plus traditionnels comme l'emballage fruits et légumes, il faut bien savoir d'où ça vient. Eh bien, ça vient de Peuplerey, avec un propriétaire qui a planté, qui a investi dans une plantation, qui les a soignés, qui les a élagués. Hein. Vous voyez, il y a du travail de fait là, hein, à la fois en entretien de la végétation compétitrice et de l'élagage, pour obtenir un bois que recherche l'industriel qui va transformer. L'industriel a besoin de ça pour faire les produits, tous les produits que je vous ai présentés. L'intérêt, c'est des bois élagués, jeunes, clairs, avec le minimum de défauts. Et dans les référentiels, on a essayé de le faire. Imaginez même des valorisations prenant en compte les différences qu'il y a entre les variétés. Vous avez vu qu'entre variétés, il y a des différences de propriétés qui peuvent être importantes. Et puis même aussi de la position dans l'agrume. Par exemple, on avait montré que pour le déroulage, c'était très bien d'utiliser la bille de pied. C'est pas là que sont les meilleures propriétés mécaniques. Donc on peut très bien utiliser la bille de pied qu'on a élaguée pour faire du déroulage, contreplaqué ou emballage léger. Et puis au-dessus, dans le haut de la grume, qui elle ne va pas être élaguée, c'est là qu'on a les meilleures propriétés mécaniques. Donc avec ça, on pourrait peut-être faire plutôt du CLT ou d'autres bois de structure comme ça. Du bois, même si c'est reconstitué. Donc il y a vraiment une valorisation intelligente à trouver pour valoriser au mieux l'arbre. Et puis, enfin, je voulais aussi dire, c'est le même type de figure, qu'il faut surtout veiller à assurer le renouvellement de la ressource. On en a dit quelques mots, mais il y a un déficit de plantation. Toutes les peupleraies ne sont pas renouvelées, ce qui laisse craindre à moyenne échéance des problèmes d'approvisionnement. Heureusement, et je pense que c'est quand même important, qu'il y a des initiatives qui ont été lancées. Merci le peuplier, c'est à l'initiative des industriels du bois qui mettent la main à la poche en disant monsieur, si vous replantez, eh bien je vous paierai la moitié du prix de votre plant. Et c'est de l'argent qui sort de la poche de l'industriel. Hein. Donc il y a vraiment au-delà des surfaces qui sont aidées, hein, je pense qu'il y a un discours positif qui dit que les industriels, ils y croient et ils seront encore là dans 20 ans, ils auront besoin de bois, donc il faut veiller à renouveler les plantations. Voilà, je vous remercie de votre attention et je vous invite à, éventuellement sur internet, vous avez le technoguide du peuplier dont sont issues beaucoup de photos. Il y a des belles choses, il y a des belles réalisations avec du peuplier. Je vous remercie.